narcotrafic et plus encore de sa violence au Mexique. Mais tout de suite, il est 19h. Un tout petit peu d'avance, le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Nous allons rebâtir Mayotte comme nous avons rebâti Notre-Dame de Paris, la promesse d'Emmanuel Macron lors de sa visite aujourd'hui dans l'archipel dévasté par le cyclone Chido. Le chef de l'État qui avertit que le nombre de victimes sera très certainement supérieur aux 31 morts recensés pour l'heure. Selon la députée mahoraise Estelle Youssoufa, il y a dans les bidonvilles de Mayotte des charniers à ciel ouvert où il n'y a pas de sauveteurs pour récupérer les corps. À Mamoudzou, le chef-lieu, la population attend toujours l'aide humanitaire annoncée par Emmanuel Macron. Le reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Kramer et Benjamin Reyef.
Des familles qui n'ont pas d'eau potable, plus de toit pour dormir, plus rien à manger, situation de détresse en particulier pour les mères de famille avec de très jeunes enfants.
Elle me dit, maman, on va faire comment? On va faire comment? On n'a pas à manger. Je suis obligée de venir ici s'ils ont quelque chose, un peu de bouillie, on partage comme ça, et après des soirs, je rentre à la maison.
Macron, il était là-haut, oui. Il était chez moi, oui. Sur toit, là-haut, voilà.
Emmanuel Macron est venu ici, à Cavani, sur le toit de la maison d'Oroufa. Des familles qui affichent une colère froide, alors qu'on leur annonce que des distributions alimentaires ont déjà démarré sur l'île.
Nous, on attend la radio, la télé, il y avait des contributions à Métropole. Mais nous, la population, on ne voit rien du tout.
Lui aussi a reçu la visite d'Emmanuel Macron dans sa maison. Gilles habite ici, dans ce quartier populaire de Mamoudzou.
Là, le plus urgent, c'est qu'il y ait de l'eau partout et que la nourriture soit massivement distribuée partout. Parce qu'il y a beaucoup de tensions autour des points d'eau. Enfin, ça commence à monter. Si les gens ne mangent pas, ça va être aussi très très tendu. Parce que la situation vis-à-vis de l'accès à l'eau est tellement dégradée que donc les conditions d'hygiène... Il y a des sites où les personnes n'ont plus aucun droit pour faire leurs besoins et c'est pas loin des points d'eau. Donc il y a de gros risques sanitaires là.
Une situation sanitaire très dégradée, constatent les associations. Une distribution de bouteilles d'eau a partiellement commencé, annonce la préfecture, avec des défis logistiques gigantesques pour atteindre les populations.
Laurent Kramer à Mayotte. François Bayrou, lui, est resté à Paris pour composer son gouvernement. Le Premier ministre a reçu à Matignon les chefs de parti à l'exclusion du RN et de LFI. Il propose au parti d'entrer au gouvernement et il attend une réponse d'ici demain. Le Parti Socialiste n'a pas été convaincu. « Nous n'avons pas trouvé de raison de ne pas le censurer », a déclaré le patron du PS, Olivier Faure, à l'issue de la réunion. François Bayrou sera l'invité de l'émission « L'événement » à 20h40 ce soir sur France 2. La peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle pour Dominique Pellicot. Verdict aujourd'hui de la cour criminelle de Vaucluse dans le procès des viols de Mazan. Les 50 co-accusés ont tous été déclarés coupables. Mais les peines prononcées de 3 à 15 ans de prison sont inférieures aux réquisitions de l'accusation. Gisèle Pellicot a brièvement pris la parole à l'issue du procès. Elle a évoqué les victimes non reconnues des violences sexuelles, mais elle a aussi dit avoir confiance dans un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie. Fin de citation. À 19h03 sur France Culture, question du soir, deuxième partie, les idées, avec vous bien sûr Quentin Lafay.
Merci beaucoup Stanislas Vazak, seconde partie de question du soir consacrée comme chaque soir à l'actualité des idées et de la recherche. Et aujourd'hui on va s'intéresser au narcotrafic et à sa violence au Mexique.
France Culture, question du soir, Quentin Lafay.
Au printemps 2024, c'est-à-dire au printemps dernier, autour de 100 personnes meurent violemment chaque mois à Ciudad Juárez, dans les villes frontalières d'El Paso et de Ciudad Juárez, que Sabine Guez a enquêté pendant plus de 10 ans. Dans cette région, la violence s'est particulièrement intensifiée ces 15 dernières années et on compte aujourd'hui 3000 meurtres par an dans cette région, ville la plus mortelle du monde, je veux parler de Ciudad Juárez. Pour étudier cette société pénétrée par le narcotrafic, Sabine Guez rencontre Diana, issue de la haute société mexicaine, et son ex-compagnon, un trafiquant de drogue important. Alors pourquoi cette région du Mexique se caractérise-t-elle par une telle violence? Comment comprendre l'imbrication entre le champ politique et le champ criminel? Comment le parcours de Diana nous éclaire-t-il aujourd'hui? Sabine Guez, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Question du soir. Vous êtes anthropologue, vous avez été journaliste pendant plus de 10 années aux États-Unis. Vous avez publié en août dernier cet ouvrage intitulé « L'histoire de Diana, trafic de drogue et politique dans le nord mexicain » aux éditions Anacarsis. Merci beaucoup d'être ce soir dans Question du soir.
Decirle a la gente de Culiacán.
Je voudrais dire aux habitants de Culiacán que nous avons envoyé les renforts suffisants pour garantir la paix et la tranquillité. Regardez, hier, il n'y a eu que deux homicides.
En todo el estado tuvimos dos homicidios.
On a couvert des affrontements, on s'est retrouvés au milieu des balles pour compter les victimes. Mais dans les bulletins officiels, qu'ils n'ont commencé à publier qu'assez tard d'ailleurs, on voit qu'il manque des morts. Et encore, à cause de toute cette insécurité, en tant que journaliste, on n'a pas pu aller couvrir les zones rurales, où il y a, on le sait, encore plus de violence. On ne peut pas contacter les gens dans ces zones, car ils sont menacés de mort s'ils parlent à la presse.
Une actualité prégnante, obsédante même en cet automne particulièrement et au Mexique. Sabine Guez, la violence, c'est le point de départ de l'ouvrage que vous signez qui vient de paraître. Pourquoi ce point de départ-là, la violence ?
Oui, en effet, c'est la question de départ. Comment en est-on arrivé là ? Aujourd'hui, le Mexique, ce sont 85 personnes qui meurent de mort violente tous les jours. Vous l'avez dit, à El Paso, on est passé à la fin des années 2010 de 300 meurtres par mois, de 300 meurtres par an à 3000 meurtres par an. C'est d'ailleurs un moment où, vous le disiez, la ville devient la plus mortelle du monde. C'est plus le cas aujourd'hui, même si elle reste violente. La carte est d'ailleurs rayée Ciudad Juárez est rayée de la carte dans les nouvelles cartes de la région qui sont publiées par la Chambre de commerce d'El Paso, tant la violence fait peur hein, et fait on a peur qu'elle fasse fuir surtout les investisseurs. La Chambre de commerce fait paraître une carte où au sud du Rio Grande, il n'y a rien que le désert. On a plus de ville de Juárez. Aujourd'hui, Ciudad Juárez reste violente. C'est une ville qui est plus violente que toutes les villes états-uniennes. À titre de comparaison, le taux d'homicide à New York, il est de entre 5 et 6 homicides pour 100 000 habitants. À Ciudad Juárez, il est encore de 70 pour 100 000 habitants. Moi, je me suis interrogée, je me suis posé la question et j'ai voulu comprendre comment on en était arrivé là. Et pour cela, je me suis penchée sur deux périodes de l'histoire.
Les années 1980 et les années 1930, on y reviendra. Mais la question qui frappe, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est en tant qu'anthropologue, comment est-ce qu'on travaille au plus près de cette violence pour la décrire d'abord, mais surtout pour apprendre à la fréquenter, comme vous avez su le faire au fil de vos travaux de recherche?
On apprend à vivre avec les gens et on apprend à faire comme eux. Les gens, ce sont des personnes que j'ai côtoyées pendant plusieurs années, qui sont devenues des proches et qui m'ont. J'étais très impressionnée par la violence quand je suis arrivée là-bas pour la première fois, et surtout par l'impunité de la violence, les disparitions de femmes, d'hommes. C'est vrai qu'aux côtés de ses proches. J'ai appris à vivre dans le déni de la violence. C'est un peu ce qui se passe dans toute ville ou pays en guerre. La vie continue, les enfants, tant que cela est encore possible, vont à l'école, on continue d'aller travailler et on fait abstraction de la violence. Après, ça peut remonter des années plus tard. Moi, je sais que c'est revenu, la peur que je n'avais pas sur place est revenue bien après.
Quand vous parlez de l'impunité face à la violence des narcotrafics au Mexique et plus encore dans cette ville où vous avez passé un temps important, comment est-ce que vous l'expliquez justement, cette impunité des pouvoirs publics, impunité de l'État à l'égard de ces hommes, de ces femmes violents ?
C'est un peu le sujet du livre. J'ai essayé de comprendre quelle est l'origine de cette violence, d'où cette exploration du passé qui m'a été dictée par mes interlocutrices et mes interlocuteurs qui me parlaient souvent du passé dans la conversation. Ils me disaient souvent « Ah oui, mais avant, c'était pas comme ça, les temps ont changé, les choses ont changé. » Et alors oui, mais quand ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela change ? Ce sont des interrogations qui m'ont beaucoup et longtemps habité. Et c'est peut-être, c'est en explorant ces événements auxquels il faisait référence souvent dans la conversation qu'on commence à avoir quelques petites réponses.
Alors, vous nous avez donné, Sabine Guèze, des noms de villes, mais c'est un espace particulier dans lequel vous avez enquêté. C'est un espace frontière entre les États-Unis et le Mexique. Est-ce que vous pourrez nous le décrire, même nous donner quelques éléments visuels pour nous permettre d'y plonger avec vous ?
Oui, alors c'est un continuum. D'une part, je vais revenir précisément là-dessus, et où tous les chemins mènent au trafic de drogue. Un continuum, un immense continuum sociologique et urbain de plus de 2 millions d'habitants, avec côté mexicain, donc Ciudad Juárez, dans un état qui s'appelle le Chihuahua, et côté états-unien, côté texan, El Paso. C'est un continuum qui est certes traversé par une frontière physique et politique, mais cette frontière est elle-même traversée quotidiennement par plus de 20 000 piétons, plus de 35 000 véhicules, par des milliers de camions de marchandises légales et illégales, donc illégales, la drogue dans un sens, l'argent de la drogue et les armes dans l'autre sens. Et ces circulations, elles participent à rendre totalement inextricables des liens familiaux, sociaux, économiques qui se forment à cheval sur cette frontière, dans un espace qui est majoritairement hispanophone, catholique et gangréné par des économies criminales. Un exemple de ce que ça peut donner, un homme peut distribuer de la drogue à Ciudad Juárez, avoir pour épouse une femme qui est gérante de maison de change à El Paso, où l'argent de la drogue va être blanchi, et avoir pour cousine une salariée, une employée de la Border Patrol.
Voilà le décor planté, voilà le décor dans lequel vous avez enquêté. Et dans ce décor, vous racontez une histoire en particulier, celle de Diana. Est-ce que vous pourriez nous présenter qui elle est, son histoire ? Peut-être commençons par son histoire familiale. C'est une histoire singulière et politique.
Ouais. Eh bien, Diana, c'est la descendante d'une dynastie politique. Elle est la petite nièce d'un général qui a rejoint le combat contre Porfirio Diaz à la fin des années 1900, qui a donc participé à la révolution. C'est un homme, ce général, donc il s'agit de Rodrigo Quevedo, qui a changé beaucoup de fois de camp pendant la Révolution. C'était assez fréquent à l'époque chez les seigneurs de la guerre, mais qui, en fin de période, appartient à ce qu'on a appelé la famille révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il est proche du gouvernement central, de Plutarco Elias Calles et du Partido Nacional Revolucionario, l'ancêtre du PRI, qui va gouverner pendant 70 ans le pays. Autrement dit, il fait partie des gens qui s'emparent de l'État et qui vont le défendre contre des rébellions dans les années 1920. C'est une famille très étendue. Diana me dira un jour qu'elle ne peut pas me dire le nombre de mères qu'a compté sa famille, tellement il y en a eu. Et voilà, je peux vous dire comment je l'ai rencontrée aussi.
Rencontrée, et plus encore, comment elle se retrouve mariée à ce baron de la drogue, un homme à la fois, dit-elle, doux et violent.
On m'en parle de part et d'autre de la frontière. J'ai un homme qui va devenir mon passeur, me parle d'elle. Il a connu son mari, donc Heriberto Ontiveros, ce trafiquant. Il a été l'un de ses nombreux avocats. Il me dit qu'elle connaît toute l'histoire. Et il me propose de me la présenter. Il ne va pas en avoir le temps parce que quelques jours plus tard, un homme que je n'ai pas vu depuis longtemps et que je croise sur le campus de l'Université du Texas à El Paso, qui est professeur et qui me demande ce qui explique mon retour dans la région, à qui j'explique que je travaille désormais sur ce sujet, me parle de Diana, lui aussi, me dit « Ah, mais tu connais pas Diana ?» et il l'appelle dans la foulée et on va se rencontrer peu de jours après. Et peut-être vous dire aussi pour répondre à votre question que comment elle va rencontrer cet homme. Bah, en fait, elle rencontre cet homme parce que c'est l'époque qui veut ça. Elle, moi, toutes ces années où j'ai travaillé à Ciudad Juárez, on m'a toujours parlé de lui. On n'a jamais cessé de m'en parler, de m'en raconter des anecdotes. Peut-être qu'on y reviendra. Elle le rencontre par hasard. Elle a l'occasion de faire sa connaissance. Elle le rencontre par des amis communs.
Pourquoi raconter l'histoire de Diana en particulier ? Qu'est-ce que cette histoire individuelle, cette vie ordinaire, quotidienne que vous retracez, pourquoi permet-elle de raconter une histoire plus grande et de décrire ce système du narcotrafic et même ce côté presque, j'allais dire, ordinaire de la violence?
Moi j'ai voulu comprendre comment se structure ces les champs politique et criminelle, l'histoire de Diana, qui en effet est une histoire qui fait écho à d'autres histoires, est une entrée. Elle est pas arbitraire, hein,
Qu'est-ce que ça raconte alors justement sur cette histoire plus large? Pourquoi s'intéresser à cette vie-là en particulier?
Elle raconte une époque, les années 80, quand ils font connaissance, hein, quand ils sortent ensemble, hein, quand ils qui est une période tournant à mon sens dans l'histoire du trafic de drogue, c'est-à-dire que c'est une époque d'envol de ce négoce, de mutation avec l'essor du négoce de la cocaïne, c'est une époque de flambée des profits, hein, tirés de cette activité criminelle. Et c'est une époque aussi qui est un tournant pour ce qui est des relations entre trafiquants et gouvernants. Une époque d'excès, de corruption, excès de pouvoir, le pouvoir qui découle du contrôle de ce négoce. C'est une époque où les trafiquants sont dominés politiquement et où le négoce il est contrôlé de main ferme depuis l'intérieur de l'État. Et c'est une époque, on va dire, d'émerveillement, d'engouement assumé, transparent, débridé devant les trafiquants, dans un contexte très particulier qui est un contexte de crise économique et de crise financière en série. Et c'est justement une époque où se nouent des relations d'amour, d'amitié, des partenariats en affaires. Et l'histoire d'amour de Diana et de Gilberto Ontiveros, elle est l'écho de ça aussi.
Vous l'avez dit, hein, vous mettez en écho deux périodes de l'histoire. Vous venez de nous parler des années 80, de ce qui s'y déroule du point de vue du narcotrafic, mais vous mettez aussi la lumière sur les années 30. Pourquoi, comment les années 30 permettent-elles justement au Mexique de comprendre cette histoire de la violence que vous décrivez ?
Ouais, les années 30, c'est une période clé pour comprendre l'origine de la connivence entre gouvernants et trafiquants. Et c'est une période très importante pour comprendre justement historiquement comment ça s'est construit. Au tournant des années 30, qui sont une étape majeure dans l'institutionnalisation et la consolidation du régime politique qui est né de la révolution mexicaine de 1910, eh bien, ces champs politiques et criminels vont se construire conjointement et mutuellement. Le contexte, c'est une économie exsangue. Le Chihuahua, où est situé Ciudad Juárez, sort de 10 ans de bataille en ruine. Et c'est aussi l'illégalisation récente de certaines drogues. Donc à partir de 1920, l'interdiction du commerce et de la culture et du commerce de la marijuana, et 1926 du pavot et de l'héroïne.
Si je reviens à l'époque contemporaine, Sabine Guez, vous dites que la contrebande aujourd'hui, à cet endroit, dans cet espace où vous opérez vos travaux, à cet endroit de la frontière, est assimilable à une industrie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Que c'est le pain quotidien, une industrie, la contrebande en général, quand j'en parle dans le livre, c'est la contrebande, en fait, à chaque étape, à chaque époque, les produits qui sont passés en contrebande évoluent. Dans les années 70, c'était des biens de consommation courante, et puis petit à petit, dans les années, pas justement pour parler des années 20, c'est la prohibition de l'alcool, c'est le lot de toute frontière. Le passage, enfin, c'est ce qui fait la fortune des contrebandiers, c'est ça. Mais peut-être pour revenir un petit peu aux années 30, moi, ce qui m'a intéressé de comprendre justement, c'était que à ce moment-là, ces secteurs de l'économie comme l'alcool, qui est frappé de prohibition, le jeu qui est tour à tour légal, illégal, et les drogues vont devenir une fabrique du pouvoir et vont façonner les contours de la politique dès la fin des années 20. Donc les proches, sans trop rentrer dans le détail et tout spoiler, mais les proches de Diana vont prendre une part à cela.
Ce que vos travaux permettent aussi de mettre en exergue, c'est la dimension collective de l'activité criminelle, avec des premiers et des seconds rôles, des rôles d'arrière-plan, des figurants. Comment et pourquoi d'ailleurs cette dimension collective vous a-t-elle paru si importante dans cette organisation du narcotrafic ?
On revient
à la période contemporaine, absolument.
Non, plutôt aux années 80. En fait, c'est à ce moment-là que ça se joue. En fait, c'est dans ces années 80 que la dimension collective du négoce de la drogue s'affirme bel et bien, avec l'incorporation d'un nombre croissant de personnes dans des structures d'activité collective qui sont plus ou moins éloignées du centre de gravité du trafic de drogue. Avec des occupations marginales ou cruciales, mais toutes nécessaires à l'accomplissement du trafic. Et c'est un moment de rationalisation de participation au négoce, de banalisation qui s'ouvre à ce moment-là. Et donc, il y a une extension des réseaux de coopération qui vont permettre aussi de comprendre la fin du contrôle ferme, de ce système de contrôle qui est exercé depuis l'intérieur de l'État sur le négoce. Ça cède à un moment donné, ça.
Les personnes que vous avez rencontrées qui participent de près ou de loin à ce narcotrafic, mais qui participent tout de même, ont-elles un problème avec justement la morale, et comment légitime-t-elle leur action, leur implication dans ce trafic, dans ces trafics ?
Oui et non, ça dépend lesquels. Il y a des personnes pour lesquelles cette question de la morale va décider d'une bifurcation à un moment donné. Ils vont arrêter de participer à une activité qui est plus ou moins directement liée au trafic de drogue. Et d'autres pour lesquelles c'est une activité familiale et qui est vraiment ancrée dans des pratiques de leur village de longue date, et pour qui la question ne va pas se poser.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un documentaire qui a été diffusé sur Arte. Il est intitulé « Mexique, fentanyl, le nouveau poison des cartels ».
Au début, j'étais chargé de faire les paquets de pastilles pour les envoyer aux États-Unis. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est une substance qui est toxique par simple contact avec la peau. Tu en sens les effets. On connaît très bien les dangers, mais ça n'importait pas. On aurait dû utiliser des gants de latex, des masques, des uniformes à manches longues. On aurait dû se couvrir intégralement pour éviter le contact. Mais on ne le faisait jamais. Mes mains commençaient à peler et je devenais accro. Tous les matins, j'arrivais le premier pour faire les paquets de pastilles, parce que j'avais besoin de cette sensation.
Je voulais vous interroger, Sabine Guest, sur le quotidien des personnes que vous interrogez. Comment ça transforme aussi les personnes, les proches que vous avez pu rencontrer, de vivre dans un espace où la drogue, où le trafic de drogue semble omniprésent, mais ne fait pas non plus tout le quotidien.
Il est incrusté ce négoce, hein, dans tous les recoins du social, du politique, de l'économique, hein, et au bout d'un moment, on le voit partout, on détecte des traces, hein, tout le temps et partout. C'est par exemple, à la longue, vous comprenez que la maison du coin, c'est une casa de seguridad, comme on les appelle, mmh, où les trafiquants et les policiers séquestrent des personnes et les y torturent. Vous repérez dans une colonia, un quartier pauvre du désert, une maison magnifique à étage qui dénote. Vous traversez la frontière, et sur le pont international, il y a les chiens qui reniflent, qui circulent entre les voitures à la recherche de la drogue. C'est aussi une façon de... Il est présent, ce trafic de drogue, dans les conversations, dans les silences, dans la façon d'en parler sans en prononcer le nom. Et il est aussi présent dans des manières de faire qui sont très précise. Par exemple, ne jamais s'aventurer à en parler à quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois. Se méfier a priori, être toujours sur ses gardes. Apprendre à se méfier de la police, par exemple. Et il est présent d'une manière très paradoxale, parce qu'il est là partout, omniprésent, mais caché, invisible, invisibilisé, et aussi suscite beaucoup d'ambivalence affective chez les gens. Il est à la fois l'objet de fascination, mais de répulsion.
Quels sont les liens entre les trafiquants et l'État ? Est-ce que ces liens sont forts, organiques, ou à l'inverse, ils sont beaucoup plus distendus qu'à une certaine époque ?
C'est difficile de répondre d'une manière très comme ça globale et générale. Et ces liens, comme je le disais plus tôt, ils datent d'il y a longtemps, hein, de presque 100 ans. Depuis le début, en fait, ça s'est construit comme ça. En fait, l'État, le régime qui est issu de la révolution et qui a su utiliser les forces de contrôle social, les syndicats, les polices, l'armée, qui a su mobiliser le soutien des classes populaires, pour asseoir l'État post-révolutionnaire, il a fait de même avec les trafiquants, en les incorporant de la même manière, c'est-à-dire subordonnées et dépendantes. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les liens sont forts, organiques, mais maintenant, ça dépend des régions. Et puis, alors que jusque dans la moitié des années 90, il y avait une vraie suprématie du politique sur le trafic, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et ça dépend des configurations locales.
Vous disiez que la drogue, le narcotrafic générait répulsion et fascination. Comment ça s'incarne concrètement ? Comment l'un et l'autre peuvent s'illustrer ?
Dans les histoires qu'on vous raconte, et par exemple au sujet de Gilberto Ontiveros, ce trafiquant, moi on n'a jamais cessé de m'en parler avant même que ça devienne mon objet de recherche. Tout le monde en sait des choses dans mon entourage, ou l'a connu, ou connaît quelqu'un. On en dit, et ça répond, je pense, à votre question. On en dit que c'est quelqu'un qui est resté simple. Une amie va me raconter que son amie était son amante, une autre amie que dans sa jeunesse, elle était réceptionniste d'un hôtel où il a passé une nuit, il lui a donné un pourboire de $500 en lui disant c'est por ser honrada, pour ton honnêteté, parce qu'elle lui a rendu la monnaie au peso près. Donc ce sont plein d'histoires comme ça, c'est une aura. Il est à la fois, pour parler de cet homme, à la fois craint et aimé par
Par la population.
Par la population.
Merci beaucoup Sabine Guez. Vous êtes, je le rappelle, anthropologue. Vous avez été journaliste pendant plus de 10 ans aux États-Unis. Et le titre de l'ouvrage qui a paru en août dernier, c'est l'histoire de Diana, trafic de drogue et politique dans le nord mexicain. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Merci à vous.
France Culture.
Allen Menschen bringt er nur Böses.
C'est l'histoire d'une sœur bénédictine, d'une femme, d'une artiste intrépide et fragile, surgie il y a 1000 ans en Allemagne et qui est devenue une légende vivante. Elle s'appelle Hildegard de Bingen, l'incarnation du génie féminin, détentrice d'une œuvre artistique et scientifique qui dépasse largement le cadre religieux. Grande traversée, Hildegard de Bingen, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
En partenariat avec le journal La Croix.
Tout de suite, vous avez rendez-vous pour un quatrième numéro d'Avenue avec Christine Spengler. Elle est une surnommée Moonface. Elle est l'une des figures marquantes de la photographie de guerre et elle est interrogée une nouvelle fois par Maëlys Bessery.
À voix nue, Maëlys Bessery.
Avec Christine Spengler, photographe de guerre, artiste plasticienne et écrivaine.
Épisode 4, retour aux racines surréalistes. Christine Spengler, bonsoir.
Bonsoir, Maëlys.
Hier, nous sommes revenus sur vos célèbres photos prises au Vietnam et au Cambodge, notamment le bombardement de Phnom Penh le 11 février 1974. Ces tragédies vont résonner pour vous avec une immense perte intervenue dans votre vie personnelle, la mort de votre jeune frère Eric, âgé de 23 ans. Quel lien faites-vous entre votre travail de reporter de guerre, entouré justement par la mort, et votre propre deuil de ce frère? En quoi est-ce que ça a influencé vos photos et votre attitude empathique sur les terrains de guerre?
J'aime beaucoup ce mot. C'est vrai que je suis pleine d'empathie. Toujours, dans tous les moments de la vie. Pas seulement dans les guerres, avec le gardien. Mais en effet, le deuil d'Éric, c'est quand même un suicide, c'est difficile à surmonter, c'est un événement tragique. Et Éric n'avait quand même que 23 ans lorsqu'il s'est suicidé. Et donc, ma vie a été brisée, mais comme je crois que je vous l'ai raconté hier soir, on me l'avait demandé, pour pallier à cette douleur personnelle, j'ai demandé à mon patron en Asie, au célèbre Horst Fasch, comme il m'avait dit, va enterrer ton frère en Alsace, mais sache qu'il y aura toujours un job pour toi ici, chez Associated Press. Et donc, j'ai tout de suite compris qu'il me fallait une douleur plus universelle, que après tout, pour peut-être un peu calmer ma douleur à moi, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser que le suicide est un acte quand même très privilégié. Je veux dire, dans les guerres, les gens ne se suicident pas. Tous ces enfants que j'ai photographiés avec tant d'amour, les petits lionceaux du désert, comme on les appelle, au Front Polisario, les enfants qui nagent morts de rire dans le Mekong sur des douilles d'obus vides. Tous ces petits enfants me viennent d'Éric, c'est-à-dire c'est le prolongement d'Éric.
Figures d'enfants sont les prolongements d'Éric, mais ça a influencé aussi votre travail. On faisait allusion, Christine Spengler, à la photo du bombardement de Phnom Penh. Il y a ce qui est dans la photo et il y a ce qui est hors champ. Ce que vous avez refusé de photographier.
C'est tout à fait vrai, Maëlys. Mais aujourd'hui, je le regrette.
Expliquez-nous d'abord ce que vous avez refusé de photographier.
Voilà. Eh bien, dans cette photo apocalyptique du terrible bombardement de Phnom Penh par les Khmers Rouges, le 11 février 1974, c'est-à-dire quelques mois avant leur arrivée dans la capitale, dans cette photo qui a été sur tous les murs de Paris pendant un an, lorsqu'il y a eu cette grande exposition sur les femmes photographes. Bon, Dans cette photo, qui bouleverse tout le monde, les gens s'arrêtaient devant, eh bien, dans cette photo, pourtant, j'ai omis volontairement de photographier les corps boursouflés qui brûlaient dans la fournaise au premier plan. Parce que c'était déjà tellement, tellement fort, cette photo, ce no man's land, on dirait, quand on pense que Phnom Penh était la ville aux mille glycines, parcourue de bonges, promenant des ombrelles oranges, safran, lisant la bonne aventure aux soldats, et la ville aux mille glycines. Tout d'un coup, en 20 minutes, il y a 220 roquettes qui sont tombées, que les Khmer Rouges ont envoyées, anéantissant tout un immense marché aux fleurs qu'il y avait là, pour convertir ce paysage dans une fin du monde. Et je me permets de rappeler, pour les gens qui ne le savent pas, que la photo, je l'ai prise à midi, alors qu'on dirait un ciel, on dirait presque une lune, un ciel de minuit.
Alors pourquoi, Christine Spengler, vous avez refusé de photographier ces corps?
Parce que toute jeune et débutante, tout de suite j'ai dit, je photographierai la guerre en noir et blanc, toutes les choses douloureuses, même ma dernière photo dans la jungle de Calais, c'est un paysage de guerre. Eh bien, je me suis habillée en noir pour y aller à Calais et j'ai fait des photos noir et blanc. Parce que je me dis, c'est tellement déjà fort le noir et blanc, tellement dramatique, que je ne veux pas, comme font beaucoup de photographes, rajouter des flots de sang rouge. Je n'en ai pas besoin. Elles sont assez fortes comme cela.
Il y a une forme d'éthique dans votre travail qui correspond à la fois à votre idée du cadrage, de la manière de faire des photos, mais qui correspond aussi à votre rapport aux gens que vous photographiez. J'entends par là, quand vous êtes parti en Iran, vous portez le tchador, vous avez une sorte d'attitude respectueuse envers les personnes qui vous entourent, vous vous fondez dans leur culture pour les photographier. Donc il y a une manière d'être accepté d'abord en tant que photographe.
Tout à fait. J'apprends leur langue, si je peux. Avant de photographier un enterrement, ce qui pour moi est toujours tellement douloureux, parce que ça me rappelle l'enterrement d'Eric. Donc elle, soyons honnêtes, le tchador, je ne l'ai mis que les rares fois où j'allais prendre le thé chez Madame Khomeini.
Racontez-nous ça, le thé chez Madame Khomeini.
Obligée. Oui, mais... Eh bien, je peux parfaitement... je suis très caméléon. Bon, c'est le propre des femmes. Une femme peut être caméléon, je peux être en tchador le matin, je peux être à un cocktail à l'ambassade de France. Ou je peux mettre une broche dans les cheveux, ou je peux mettre un foulard noir. Tandis qu'un homme, je me souviens d'un photographe très célèbre et extraordinaire de Paris Match, qui a essayé en Afghanistan de mettre une burqa. Il avait pensé, après je vais retrouver son nom, Michel Perra, je crois, il avait mis 4 ou 5 appareils photo, et il pensait qu'avec la burqa, il passerait inaperçu. Et évidemment, on voyait, comme la burqa, ça te couvre entièrement, et qu'il avait les appareils photo et ses caméras dessous, on voyait rien quand il était dans la voiture, dans le taxi. Mais quand il y a eu le premier checkpoint, forcément, quand il y a un checkpoint, on regarde ce qu'il y a dans la voiture et on te demande de sortir pour regarder ce qu'il y a. Et quand ils ont vu déjà ses pieds, ils ont tout de suite vu que c'était un homme. Et quand ils ont vu tous ces appareils, évidemment, ils l'ont pris pour un espion. Donc, il a failli être jugé, il aurait pu être exécuté. Tandis que moi, Maïlis...
Alors vous, votre tchador, comment vous avez fait pour sympathiser avec la femme de Khomeini?
Comme j'avais fait pour sympathiser quelques années avant, après l'Irlande du Nord, avec la femme du cheikh Mujibur Rahman. Eh bien...
Vos confrères avaient des appareils pour prendre des photos de loin.
Oui, des téléobjectifs, et moi, mes confrères très célèbres déjà, nous nous trouvons à Dhaka, au Bangladesh, où mon premier patron turc célébrissime et adoré, Gökçin Sipahioglu, lorsque il m'annonce que je viens d'avoir une double page dans Life avec Carnaval à Belfast, la photo que nous avons décrite hier, des petits gamins irlandais coiffés de chapeaux de carnaval qui font la nique aux soldats, il me dit « Décidément, tu as un œil. Je t'engage. » Il me disait tout de suite « Est-ce que tu serais d'accord pour partir demain au Bangladesh photographier le Cheikh Mujibur Rahman ?» Moi, ni je savais où était le Bangladesh, ni je savais qui était le Cheikh Mujibur Rahman, mais je dis tout de suite « Oui, évidemment. » Alors, il dit, écoute, je vais pas te donner beaucoup d'argent, je vais te donner le billet d'avion, un peu d'argent, je me souviens, j'ai mangé que des bananes pendant 20 jours. Et, j'arrive là-bas, et comme je fais toujours, je m'installe dans un tout petit hôtel pas cher, mais je vais prendre un verre le soir avec les journalistes quand ils rentrent de travail pour apprendre toutes les informations. Et à l'époque, Maëlys, à l'époque, ça se faisait. Nous sommes donc en 72, en retour d'Irlande, les rédacteurs en chef des grands magazines accompagnaient leurs photographes.
Ils venaient sur place.
Oui, ils venaient sur place, c'était extra... pour nous surveiller, tout pour diriger le travail. Alors moi, comme toujours, je vous ai dit, avec mon jean, ma petite parka et mon unique appareil photo que je porte sur ma poitrine comme un talisman... je les fais pas rire, mais ils sont au contraire très gentils avec moi. Enfin, je leur fais pas peur, disons. Et donc, ils m'acceptent. Ils savaient que j'adorais le Gin Fizz. Alors, le soir, ils m'invitaient. Et alors, là, tous les patrons sont en train de demander à leurs photographes comment ils vont faire le lendemain pour photographier le grand leader. Mujibur Rahman, qu'on appelait Cheikh Mujib, beaucoup plus facile de raccourcir, et qui avait été emprisonné pendant 9 ans au Pakistan, et qui venait d'être libéré et allait rentrer dans son pays. Alors là, il y a le rédacteur en chef de Stern qui dit à son photographe, « Bon alors Hans, comment vas-tu faire demain ?»« Oh moi, patron, c'est très facile, j'ai déjà soudoyé quelqu'un sur le toit de l'hôtel, je mets un doubleur de focale pour voir l'avion de loin. »« Bon, très bien. Et toi, Georges ?»« Ah ben moi, pareil, j'ai aussi un télé que l'on m'a prêté, immense. » Et après arrive mon tour, à la fin. C'est toujours moi la dernière, en tant que femme, ça me ravit, parce que comme ça, j'ai tout le temps d'observer, de voir ce que disent les autres. Et après, je ressors plus, je brille plus, puisque je suis la dernière. Alors là, ils me disent, avec un peu de pitié, « Et vous, Christine, comment allez-vous faire pour photographier Cheikh Mujib demain avec juste ce petit grand angle ?»« Oh, je dis, moi, monsieur, en anglais, je lui dis, monsieur, ne vous en faites surtout pas. » J'ai profité de cette semaine, ces jours-ci, depuis mon arrivée à Dakar, pour me rendre chez Madame Cheikh Mujib. Je lui ai offert la moitié de mon flacon de Guerlain, j'avais emporté avec moi, voilà. Et je suis devenue son amie, je prends le thé avec elle tous les jours, et elle m'a dit que je serai la bienvenue demain chez elle, à l'heure où son mari arrivera. C'est-à-dire que je serai sur place pour photographier Cheikh Mujib. Là, les autres étaient verts, hein, mes copains. Verts, il n'y a pas d'autre mot. Ah, mais le rédacteur en chef de Life, est très rapide, il dit, Miss Christine, tout d'un coup, j'étais Miss. Miss Christine, would you accept vous acceptez de travailler pour Life Magazine demain? Je dis, oh monsieur, oui, je dis au serveur, vite, pencil, un crayon, emportez-moi un crayon. Et je l'oblige à me signer.
Un
papier? Oui, sur la table, café, j'en croyais pas. Miss Christine Spengler is going to work, va travailler pour Life Magazine demain, salaire $400.
Cette manière de faire, Christine Spengler, vous l'avez réutilisée en Iran, hein, dans les années 80. Vous devenez... amie avec la femme de Khomeini,
parce que
qui vous accepte chez elle.
Elle m'accepte parce que je suis habillée en noir
et voilée
et que je suis très pudique. Elle me dit chaque fois, elle dit au gardien de la Révolution, appelez Christine, j'aime Christine, c'est la seule que j'aime parce que, bon, j'étais la seule femme, alors c'est pas je suis la seule que j'aime, mais elle voulait dire c'est la seule femme, les autres c'est des hommes, elle va pas les inviter chez elle. Alors elle dit j'aime beaucoup Christine parce que elle sait très bien porter le hijab, elle a de la pudeur. Et en effet, il y a des photos de moi en Iran où l'on me voit, c'est peut-être Sylvain Julien qui a dû les prendre, on me voit très souvent couvrir la moitié de mon visage,
avec le
baisser les yeux toujours.
Il y a un côté caméléon chez vous.
Oui, c'est...
Mais Roménie, la règle, c'était que vous ne le preniez pas en photo.
Ah non, non, non. Ça, alors, j'aimais Fatima, elle s'appelait Fatima, elle est morte depuis. Fatima me laissait, parce qu'elle... Elle s'ennuyait, donc ça l'amusait. Ça l'amusait que je vienne, comme ça. Et alors elle, je lui disais, mais Fatima, par le guide, je disais, vous ne me laisseriez pas ouvrir un peu le rideau qui séparait la pièce d'où elle était du microscopique salon où il était recroquevillé, il était sur un tapis avec un grand, grand, grand transistor. Il sortait jamais de chez lui.
Elle voulait pas que vous preniez la photo.
Ah ben non. Évidemment, elle disait, non, mais c'est qu'elle avait peur, même elle, de lui et moi, encore plus. Alors elle me disait, Christine, hein, tu regardes pas par là. Alors, tu photographies pas mon mari. Alors j'ai dit, moi, tu vois, j'ai envie de photographier mon mari, mais il me fait une peur atroce. Bon. Donc,
c'était la règle tacite. Il y a aussi autre chose que vous avez utilisée. Alors, la familiarité que vous pouviez obtenir en tant que femme, mais aussi le fait d'apprendre des langues étrangères.
Ah bah
Christine
oui.
Spengler. Vous avez appris.
Je suis intelligente.
4 ou 5 langues.
Moi, j'en comprends 7. Ouais, mais surtout, j'ai appris à me débrouiller toute seule en arabe. C'est-à-dire là, j'ai de la chance parce que l'espagnol, puisque j'ai été élevée à Madrid. Et que je parle espagnol, peut-être même mieux que le français. Bon, donc en espagnol, je peux très bien dire le ra et le ra.
De la langue arabe.
Ukhra, une autre fois. Donc, je n'ai eu aucun problème pour l'accent. Et les chauffeurs de taxi à Paris, quand je leur parle en arabe, ils me surtout en fossa. J'apprends l'arabe littéraire, le classique, celui des nouvelles, celui le plus beau. Et alors là, ils sont sidérés. Ils disent, mais comment vous arrivez à... Bon, je dis, c'est facile, parce que je parle très bien espagnol. Puis je me promenais, quand je savais que j'allais... La première fois que j'allais au Liban, j'ai dit, il faut absolument que je me débrouille, parce que si on m'attaque, si on m'attrape...
Ça vous est arrivé, on vous a attrapé au Liban
oui.
en 82,
ben
83.
Oui.
Vous êtes arrêté par les combattants Mourabitoun.
Oui, les pires de tous.
Vous pouvez nous raconter?
Oh là là, les combattants Mourabitoun étaient les seuls qui faisaient vraiment peur. Parce que c'était pas seulement des combattants, c'était des pillards. Ils violaient, ils arrachaient les montres. Et alors eux, il se trouvait d'une extrémité à l'autre de ce qu'on appelle le passage du musée, que moi j'appelais le couloir de la mort. Et chaque fois, c'est comme à Belfast, j'ai raconté que la ville était scindée en deux pour séparer les communautés catholiques et protestantes. À Beyrouth, comme on dit, eh bien, du côté palestinien où je me trouvais, avec mes consoeurs, Catherine Leroy et Françoise de Mulder, rarement en même temps, mais nous, on était côté palestinien. Eh bien, les Mourabitoun, qui donc étaient terrifiants, parce que j'avais quand même peur, quand je sortais du quartier, là où j'étais musulman, pour aller porter tous les soirs ou tous les deux soirs mes photos à l'aéroport, pour les envoyer à Paris, parce qu'il n'y avait pas, comme aujourd'hui, d'autres moyens. Il fallait porter des rouleaux, il fallait se débrouiller pour que le commandant accepte de les emporter et tout. Et là, forcément, je rentrais le couloir de la mort, le passage du musée, nous arrivions en terrain chrétien. Et là, chaque fois, je les voyais J'ai regardé comme ça, j'ai monté, j'évite de trop les regarder, je baissais mon voile pour qu'ils voient bien, qu'ils croient que je suis... Libanaise, donc avec mes cheveux noirs, la France, je la cache toujours, évidemment. Mais j'évitais de les regarder, faut jamais regarder les hommes dans ces pays, toujours les yeux bas. Là. Et là, ils faisaient peur. Normal, ils étaient très jeunes, les Morabitounes, ils sont morts aujourd'hui, il paraît. Et ils avaient le torse nu, avec des tatouages et des dents de tigre autour du cou. Et j'avais des bandeaux rouges sang. Et je me souviens, je l'ai écrit dans mon livre, c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire, parce qu'on peut pas tout raconter avec la photo. Je me souviens très bien qu'à la sortie du passage du musée, que j'appelais donc le couloir de la mort, ils brandissaient des têtes de mort au bout de leurs fusils.
Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé dans ce couloir ?
Eh ben là, ils m'ont vu, ils m'ont attrapé. C'est-à-dire que j'ai fait, pour une fois dans ma vie, dans ma carrière, j'avais fait la veille une grande bêtise. J'avais pris un risque. Après, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû. Mais enfin, bon, ça fait partie de notre vie de photographe, de prendre des risques. Eh bien, j'avais pas résisté au plaisir d'essayer de photographier depuis la voiture une image qui me correspondait tellement. Nous rentrions de front le matin du sud Liban et mon guide palestinien m'avait dit que si je le permettais de dormir, si j'avais fini mes photos, car il devait aller travailler avec Arafat, qu'il était épuisé. Je dis, mais oui, Ahmed, évidemment, j'ai fini mes photos, t'inquiète pas. Donc, je mets mon icône à mes pieds et je regarde le paysage. Et tout d'un coup, je vois une photo que j'adorerais faire. Et c'était un cortège nuptial, donc dans une voiture blanche, merveilleuse, garnie de petits nœuds de tulle rose et bleu, qui a grand renfort de klaxon, comme ils font pim, 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 essayer de dépasser un tank de fedaïnes armés et en cagoulé, les klaxons. Et donc, comme toujours, j'aime toujours mes photos, c'est très souvent le contraste.
Le contraste, oui.
Voilà, la vie et la mort. Donc, j'adorais, parce que je me dis, si j'arrive avec mon grand angle à les prendre les deux ensemble, mais la voiture, le cortège nuptial, d'abord plus présent que les fedaïnes noires, eh bien, j'ai une photo, à mon avis, merveilleuse, parce que c'est la vie et l'amour qui l'emportent sur la mort.
Et on vous a pris pour une espionne.
Eh ben oui, parce que il s'est réveillé, Ahmed, j'ai pas voulu le réveiller, mais quand j'arrivais pas à l'apprendre, quand il a entendu mes déclics et tout, il se réveille et il me dit, mais que fais-tu ? Tu m'avais dit que tu ferais plus de photos. Je dis, mais non, Ahmed, j'ai pas voulu te réveiller, c'est rien du tout. C'est rien, c'était un cortège de mariés. Il me dit, mais de quoi me parles-tu ? Tu es une menteuse. Il n'y a pas de cortège de mariés. Et en effet, le cortège marié, il était déjà parti. Donc, il voit que le tank avec les fedaïnes. Et il dit, tu es une espionne israélienne et tu as profité de mon sommeil pour prendre des objectifs stratégiques.
Christine Spengler, vous êtes emprisonnée. Combien de temps on met à vous libérer ?
Je ne suis pas emprisonnée. Je suis jugée à un tribunal révolutionnaire de 5 heures avec les yeux bandés. Moi, toujours en noir, heureusement. Je me sens mieux, protégée. La Saouda, comme ils m'appellent. Et on m'a bandé les yeux et on m'a attaché les mains dans le dos. Et là, j'ai un juge palestinien qui va me poser des questions en anglais pendant 5 heures. C'était un peu long. Et pendant qu'un enfant soldat, un enfant palestinien, n'arrêtait pas de, j'entendais le bruit, de me menacer, faire semblant de mettre son revolver contre ma tempe. Et alors, il me disait, même l'enfant me disait, reconnais-le, tu es une espionne sioniste. Et moi, je disais, là, non. Non, Anna Francia, je suis une journaliste française, c'est tout. Alors là, le juge disait, ah bon, une journaliste française? Mais pourquoi alors? Pourquoi te voiles-tu de noir comme nos femmes? Pourquoi apprends-tu l'arabe? Voilà. Tout se retournait contre moi.
Combien de temps pour vous faire libérer?
Non, au contraire, il n'allait pas me libérer. Ça se passait très mal. Et c'est la chance, comme toujours, j'ai eu la baraka une fois de plus, qu'un jeune photographe libanais du journal An-Nahar m'avait vu quand j'avais été attrapée, enlevée le matin. Donc, il avait couru à l'ambassade de France et a dit « La Sauda, Christine, vient d'être arrêtée par les Morabitounes ». Donc, même s'il y avait 116 factions, l'ambassadeur de France savait. Et qui est le chef des Morabitounes? Le grand leader druze Walid Jumblat. Et Walid a dit « Mais enfin, libérez-la immédiatement, je vous l'ordonne ». Christine Spengler ne peut pas être une espionne israélienne. Elle fait partie de la célèbre agence Sigma, que je connais très bien. Et donc, j'exige que vous la relâchiez immédiatement et que vous la rameniez à Beyrouth, à l'hôtel Commodore, où nous arrivions, où nous vivions tous. Et j'arrive ainsi dans une Mercedes blanche, sous les bombardements, les premiers bombardements israéliens de la nuit, et l'enfant soldat qui m'avait menacé pendant tout le jugement dansait autour de moi et disait « je suis content que tu ne sois pas une espionne. Est-ce que tu veux une Dunhill ou une Marlboro ?» Voilà.
Christine Spengler, votre façon de vivre à cette époque-là, en tant que reporter, dans les années 80 et même après, vous n'avez même plus d'appartement à Paris, vous vivez à l'hôtel, vous allez d'hôtel en hôtel, vous ne prenez pratiquement pas de vacances, vous êtes sans cesse sur un terrain de guerre, un autre.
Je ne cherchais, en réalité, j'adorais mon métier à la folie, comme encore aujourd'hui, mais je cherchais la mort. Depuis le suicide d'Éric, je cherchais la mort, mais je ne voulais pas me suicider comme lui. Je voulais pas m'ouvrir les veines, non.
C'est sur cette frontière, en fait, entre le danger, le risque de mort, la vie que génère aussi ces situations de crise. Paradoxalement, la mort est partout, et en même temps, il y a un élan vital dans la situation de guerre, une volonté d'échapper.
C'est vrai. Dans le film qu'a fait le réalisateur Philippe Vallois,
au Liban,
sur ma vie au Liban, s'appelle Les guerres de Christine Est, très dur à dire. Et là, justement, il dit, si tu m'as intéressé, dès que je t'ai rencontré, je venais de rencontrer mon compagnon Philippe Warner, et il me dit, ce qui me fascine en toi, c'est cette alternance, justement, entre ce côté noir et malgré tout, ton élan de vie, ton look quand tu n'es pas en noir, les couleurs que tu portes, qui viennent d'Espagne, tes yeux maquillés, même les talons hauts. Donc, il aimait mon personnage, passé
double,
ce personnage comme vous dites.
Alors, suite au suicide de votre frère, Christine Spengler, vous allez rompre tout lien avec votre mère pendant très longtemps.
Parce que je la rends responsable du suicide d'Éric, et je lui ressemble tellement physiquement. Je vous ai dit, quand je me fais les grands yeux, ça y est bon, ou que je mets une brosse dans les cheveux, ou un chapeau, comme elle, me ressemble tellement que je ne veux plus rien savoir et je fuis. Je ne veux surtout pas lui ressembler.
Et quand elle meurt dans les années 80, 88,
je ne l'ai pas revue depuis 20 ans.
Et ça sera l'objet de notre prochain épisode. C'est le jour de son enterrement que vous allez rencontrer votre futur compagnon, Philippe Warner.
Et qui est le sosie de mon frère Éric.
Merci Christine Spengler. On se retrouve demain.
Avec grand plaisir.
C'était À Voix Nue, Christine Spengler, photographe de guerre, entre deuil et retour à la vie. Chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Maïtran, réalisation Nathalie Battus. Une série de Maïlys Vessery disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France. Demain, épisode 5, autobiographie en images et en mots.
France Culture. Vous avez fait une grosse sieste cette année, non ? Pas de problème, aucun souci. France Culture vous propose ses incontournables. Romans, séries, films, littérature pour enfants ou pour adultes, essais, découvertes scientifiques, bref, il y en aura pour tout le monde. Les incontournables de culture, saison 2024, à offrir, à partager, à déguster. Sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
10 chats qui font le point sur l'espèce humaine, ça donne quoi ? Une fable animalière entre comédie musicale, ballet, opérette, modern jazz et danse minimaliste sur moquette. Jeunes ou moins jeunes, les chats vont chanter et danser leurs peurs, leurs doutes et leurs espoirs. Les chats ou ceux qui frappent et ceux qui sont frappés, de Marlène Saldana et Jonathan Drillet, du 7 au 11 janvier 2025 à Chaillot, Théâtre National de la Danse à Paris. Un spectacle France Culture.
20h sur France Culture, soit l'heure de retrouver Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Quentin.